Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là.
La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies. Hein.
Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner.
www.libradio.org. La radio toute feu, toute flamme.
Voilà, alors nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Et le 8 novembre 2008, devant le siège du CROUS, est-ce que je prononce bien ?
Ouais, c'est ça, le CROUS.
Le CROUS, ça désigne donc le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Lyon. Eh bien, un étudiant s'immolait par le feu, dénonçant la précarité extrême dont lui et ses pairs sont victimes. Aujourd'hui, le 8 mars, donc c'est la journée internationale des droits des femmes. Des manifestations ont cours un peu partout. Nous sommes en compagnie d'une personne qui va nous parler de cette action et de la situation des universités, des universités ouvertes, c'est-à-dire de la situation de grande précarité dans laquelle sont jetées les chercheuses, les enseignantes, etc. Bonjour à toi.
Bonjour.
Comment est-ce que ça va ?
Ça va très bien. On est très contents de pouvoir manifester aujourd'hui. Cet après-midi, moi je suis à Paris, mais il y a des choses dans toutes les villes de France. Parce qu'en fait, en ce moment, il y a un mouvement social très fort dans les universités en France, qui a commencé. Alors, il y a eu déjà des choses effectivement au moment du drame qui s'est passé à Lyon en novembre. Il y a eu beaucoup de choses, notamment à Lyon, mais aussi des assemblées générales dans d'autres villes où les étudiants et étudiantes se sont exprimés sur la précarité qu'elles et ils vivaient. Mmh. Et puis ensuite, il y a eu un mouvement très fort qui est parti en décembre, qui d'ailleurs était très souvent porté par les étudiantes et les étudiants, pour en fait accompagner la protestation contre la réforme des retraites en France. Et donc pour être aux côtés notamment des secteurs les plus mobilisés dans les transports, la SNCF, les transports parisiens, l'éducation nationale aussi qui était très mobilisée. Et puis ça a continué en janvier, en février, ça continue, enfin ça se massifie, on va dire, dans les universités depuis plusieurs semaines, parce que en parallèle de ça, il y a une réforme qui est prévue de l'université et de la recherche qui vise à qui va conduire à précariser encore plus les personnels d'enseignement et de recherche, et donc à dégrader encore la situation de l'université publique. Voilà.
Effectivement.
En gros, l'actualité.
Absolument. Ouais. Alors effectivement, le 5 mars, juste là, il y a quelques jours, eh bien, l'université et la recherche s'arrêtent. C'était un appel lancé par la Coordination nationale des facs et des labos en lutte. Pour mettre en lumière justement ces axes de mobilisation dans l'enseignement supérieur et la recherche. Comme tu l'as dit, pour combattre la réforme des retraites, la réforme du chômage, ce projet de loi LPPR, si c'est bien ça.
Oui,
hein.
Mmh. Oui, tout à fait.
Et alors voilà, pourrais-tu nous dire, selon toi, eh bien, la mobilisation, où en est-elle ? Donc le 5 mars, cet arrêt s'est produit, il me semble qu'il a été largement fait, et nous sommes aujourd'hui le 8, une mobilisation arrive. Ouais. Est-ce qu'on sent que vraiment, eh bien voilà, les gens, les personnes d'une seule personne vont se lever et aller manifester ?
Oui, alors déjà le 5 mars, effectivement, c'était très réjouissant parce qu'il y a eu des très grosses manifestations par rapport au secteur, pour les universités, c'était des manifestations qui étaient massives. À Paris, on était 25 000 personnes. C'était vraiment un cortège très dense, très, très festif, avec beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, beaucoup de chercheurs et chercheuses précaires, d'enseignantes précaires, et aussi nos collègues plus fonctionnaires qui étaient là aussi. Mais encore une fois, c'est quand même souvent le corps, on va dire, étudiant et enseignant précaire qui qui est quand même qui pousse la mobilisation. Mais en tout cas, ça a vraiment bien marché et ensuite ça a été suivi d'une coordination nationale, donc une deuxième coordination nationale. Il y en avait une première les 1er et 2 février et là c'était la deuxième qui a eu lieu vendredi et samedi, où l'idée c'était de clarifier, de se mettre d'accord sur nos revendications au niveau national et sur comment on poursuit la mobilisation. Donc le but là c'est de faire en sorte que le 5 mars c'est tous les jours finalement et que on continue la grève à partir de lundi. Les académies, il y avait des académies qui n'étaient pas encore rentrées de vacances, donc notamment l'académie de Lyon qui va nous rejoindre dans la grève et qui va faire une grosse journée mardi. Et le but c'est de continuer. Donc aujourd'hui bien sûr grosse journée de mobilisation en lien avec la journée pour les droits des femmes. Et tout au long du mois de mars, en fait, il va y avoir pas mal de choses organisées. Notamment, il y aura une semaine noire, la semaine en fait qui va être entre les deux tours des élections municipales, où le but c'est qu'on fasse pas mal d'actions dans les universités, donc à la mi-mars, autour de ça. Il y aura le jeudi 19 mars, notamment, on va être en convergence avec l'éducation nationale, où il y a beaucoup de réformes aussi qui sont très contestées, la réforme du baccalauréat. Donc il y aura une journée de la maternelle à l'université, avec une manifestation, des manifestations. Il y aura aussi une journée, alors j'ai oublié la date, je crois que c'est le jeudi d'après, sur la précarité des étudiants et étudiantes et des personnels des universités. Donc en gros, il y aura plein de choses qui pourront être faites grâce à cette mobilisation qu'on espère qui va se poursuivre en fait. Parce que nous, en fait, la situation, elle est devenue tellement dramatique pour nous. Alors moi, je suis doctorante, donc je connais bien ce qui se passe du niveau, au niveau des personnels précaires. Mais c'est aussi dramatique du côté des étudiantes et étudiants. Et donc, on se dit, bah là, c'est vraiment le moment de tout arrêter. En fait, vraiment d'arrêter la machine, de sortir la tête de l'eau, de sortir de ce rythme effréné à la publication, à travailler toujours plus pour souvent gratuitement, souvent très mal payé. Donc en fait, même si c'est un énorme sacrifice, on se dit que là, on n'a plus le choix, qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui envisagent d'arrêter, de quitter ce milieu-là parce que ça devient trop difficile. Mmh. Voilà, parce qu'en fait, alors je vais parler des personnels, on est sur des contrats en fait qui sont souvent hors la loi en fait. On a notamment une part très importante des enseignements qui sont donnés sur des contrats de vacation, qui sont en fait des contrats. Alors même le mot contrat est discutable parce que c'est des contrats en fait qui n'ouvrent pas de droits sociaux, donc qui n'ouvrent pas de droits à la retraite, au chômage, au congé payé, etc., au congé de maternité. Donc du coup, déjà c'est problématique et c'est des contrats qui sont très très mal payés, qui sont officiellement payés en dessous du SMIC horaire, donc en dessous du revenu du salaire minimum. En fait, c'est 30 centimes en dessous officiellement parce qu'il y a un... Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, pour une heure de cours, on a besoin officiellement de travailler 4 heures, quand si on compte la préparation, les corrections, etc. Et donc, si on regarde le salaire horaire pour une heure de cours, en fait, ça revient à 30 centimes en dessous du salaire minimum. Donc, c'est des salaires et ça représente beaucoup de d'enseignements, puisqu'il y a une association de jeunes chercheurs qui a calculé que pour remplacer toutes les heures de cours données par des vacataires, il faudrait créer 13 000 postes de fonctionnaires, enseignants fonctionnaires. Donc ça correspond à 20% en fait de l'ensemble des enseignants chercheurs fonctionnaires en France. Donc c'est vraiment massif. Donc voilà, nous on est dans cette situation-là. On est aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui font leur recherche en étant au chômage, qui terminent leur thèse en étant au chômage, puisque en fait il y a seulement 40%. Si je prends en sciences humaines, on a seulement un tiers des thèses qui sont financées. Donc ça veut dire en fait il y a beaucoup de travail gratuit qui est fait, de valoriser son travail de recherche gratuitement en étant payé au chômage, sachant que quand on est étranger, on n'a même pas le droit au chômage ou au RSA ou au minima sociaux. Donc c'est aussi ces situations là, c'est aussi en fait comme c'est la journée le 8 mars, il y a aussi des, en fait, cette situation de précarité, elle impacte d'autant plus les personnes qui sont par ailleurs dominées parce du fait que ce sont des femmes, du fait que ce sont des personnes racisées, du fait que ce sont des personnes de nationalité étrangère. Et en fait, cette précarité, elle expose notamment au harcèlement, aux pressions, harcèlement moral, harcèlement sexuel. Et donc, c'est aussi ça, c'est ça qu'on dénonce dans le cadre de cette mobilisation. Il y a beaucoup de réflexions aussi là-dessus, de comment lutter contre les violences notamment sexistes et sexuelles qu'il y a à l'université, comment on sanctionne les agresseurs de façon plus efficace. Et voilà, c'est aussi cette question-là qui est centrale en fait dans notre lutte contre la précarité.
Oui. Alors voilà, on entend bien les impacts très concrets, très funestes qui touchent toutes ces personnes dans la recherche et dans l'enseignement. Pourrait-on dire que cette situation, alors après je vais te questionner sur, selon toi, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce que cette paupérisation des métiers de la recherche on est à ce point-là, est prégnante à ce point-là? Mais avant de te poser cette question-là, peut-on dire que le mouvement de université ouverte, eh bien, dépasse-t-il le cadre de l'alma mater? Est-ce qu'il est compris? Est-ce qu'il est suivi également par les personnes qui sont non pas des pairs, mais qui sont des personnes, par ailleurs, tu vois, je pense aux Gilets jaunes, je pense à la société civile en général.
Je pense qu'il y a un gros travail d'information à faire sur notre situation, parce que très souvent, la situation de l'université est très mal connue, notamment le fait qu'on est un secteur de la fonction publique, enfin un secteur public qui est parmi les plus, enfin qui est le premier, comment dire, qui est à l'avant-garde de la libéralisation et de la précarisation, et ça c'est très mal connu. Et donc je pense que pour l'instant la convergence, elle s'est faite plutôt en décembre, en janvier et février, quand on était, encore maintenant, on est toujours contre la réforme des retraites, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus centré, je pense, sur la réforme qui est imminente de l'université de la recherche. Et donc la convergence avec les Gilets jaunes, elle a été très forte, par exemple, avec les autres secteurs, avec aussi beaucoup l'éducation nationale, donc primaire et secondaire, qui est concernée par des choses très proches de ce qu'on vit. Mais cette cristallisation des luttes, elle s'est faite quand même avant tout contre la réforme des retraites. Mmh. Et il y a un enjeu de construire, on essaye vraiment de construire cette convergence. Alors, on essaye au niveau interprofessionnel déjà d'aller voir les personnes qui sont sur nos sites universitaires et qui sont, par exemple, dans le nettoyage, la sécurité, la logistique, et qui sont pour l'instant, finalement, qui ont des problématiques propres, parce que c'est des services qui sont externalisés par des entreprises privées très souvent. Et donc, il y a un enjeu déjà à converger avec ces personnes-là. Donc, on essaye vraiment, c'était un enjeu de la coordination nationale de ces deux derniers jours, de voir comment on peut construire avec ces professionnels-là. Et par ailleurs, construire aussi avec les écoles, les lycées, les collèges, qui sont concernés vraiment par la mise en concurrence des élèves, la sélection toujours plus forte, la contractualisation, donc le fait qu'il y ait de moins en moins de fonctionnaires qui assurent toutes les tâches qui font fonctionner ces établissements. Et donc c'est aussi notamment pour ça qu'il y avait cette journée du 19 mars de la maternelle à l'université, pour faire converger avec ces secteurs-là. Au niveau de... Ouais.
D'accord. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais le site internet où on peut trouver plein d'informations sur la situation, également les différents appels, les actions qui vont être menées. Ouais. C'est www.universitéouverte.org, université ouverte en un mot. Là, on peut dire que c'est le site qui centralise un petit peu tout.
Ouais, tout à fait. Il y a vraiment plein de choses. On a aussi un site des précaires. Mais de toute façon, bon, tout est centralisé effectivement sur universitéouverte.org. Précaire de l'ESR, c'est un autre site qui existe, donc c'est wordpress.com. Mm-hmm. Donc en fait, précaire de l'ESR, tout attaché, précaire au pluriel de l'ESR. Oui. wordpress.com, je crois. Là.
D'accord. Voilà. De toute façon, tous ces liens, on les mettra au libellé du podcast. Hein, donc, pas d'inquiétude. Ouais, ouais. On aura vraiment les adresses précises. Je voulais te questionner, si tu as encore 5 minutes.
Oui.
Alors, voilà, je voulais te questionner. On parlait de paupérisation des métiers de la recherche. Eh bien, selon toi, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'on peut pointer un moment zéro qui serait, par exemple, les accords de Bologne? Je parle de ça parce qu'effectivement, c'est un moment où, eh bien, également ici en Suisse et partout, eh bien, il y a eu à ce moment-là des mobilisations, des grèves dans les universités en disant on voit les choses venir et on voit que là, on change de paradigme et qu'on va vraiment vers, eh bien, ce que tu as décrit jusqu'à présent, une mise en concurrence des chercheuses et des chercheurs, etc.
Oui, tout à fait. Bah, quand on voit les analyses qui sont faites, il y a par exemple le collectif Projon l'université, un collectif français qui s'est créé dans les années 2000, au moment et qui pointe tout à fait les accords de Bologne comme un point de départ. En France, ça s'est poursuivi par une loi, notamment en 2009, la loi LRU, qui est une loi qui a renforcé cette logique, notamment d'autonomie des universités et de mise en concurrence, donc de ces universités entre elles. Il y a eu ensuite, alors je vais parler de peut-être ce que je connais le mieux pour avoir participé donc, les dernières années. Il y a eu notamment la réforme Parcoursup, qui était la réforme de l'entrée à l'université, et le fait que le baccalauréat, qui jusqu'ici était la seule condition pour pouvoir rentrer à l'université, donc avec le principe d'université ouverte à tout le monde et gratuite, ce principe-là a été remis en question, puisque on a une logique de sélection des dossiers à l'entrée dans les filières, et donc les filières sous tension finalement ça entérine le fait que il y a des filières sous tension qui ne peuvent pas accepter tout le monde et que on classe les personnes qui ont le droit ou non de rentrer dans cette filière. Ensuite, il y a eu l'année dernière une réforme qui s'appelle de façon très cynique Bienvenue en France, mais qui a conduit à augmenter les frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes hors Union européenne. Donc on est passé quand même à des frais d'inscription en licence qui sont de 2 770 € et en master de 3 770 € pour ces personnes de nationalité étrangère. Là aussi dans une logique d'attractivité et de concentration des moyens sur certains établissements prestigieux au détriment d'autres établissements, et aussi qui bien sûr pénalise très fortement les personnes qui sont avec des faibles ressources, sachant qu'en plus, enfin, les personnes étrangères avec des faibles ressources, sachant que on a vraiment en France une maltraitance administrative qui est très forte depuis très longtemps à l'égard des étudiants et étudiantes de nationalité étrangère qui ont des difficultés à renouveler leur visa étudiant, qui ont des interdictions de travailler au-delà d'un certain nombre d'heures en France. Donc il y a vraiment d'énormes discriminations à l'égard de ces personnes et qui sont renforcées par cette augmentation des frais d'inscription. Et donc là, récemment, enfin cette année, il y a eu l'été dernier, une loi concernant la fonction publique qui a conduit à autoriser finalement dans tous les secteurs de la fonction publique la multiplication de contrats précaires, le fait que on puisse avoir par exemple des CDI de projet dans le secteur public, donc des contrats qui qui sont soi-disant à durée indéterminée, enfin qui sont à durée indéterminée, mais qui en fait peuvent s'arrêter d'un jour à l'autre quand la mission sur laquelle on a été recruté s'arrête. Et ça, la semaine dernière, il y a eu un décret qui a permis que ces CDI de chantier ou de mission soient autorisés dans la recherche et l'université. Donc ça, c'est passé la semaine dernière par décret. Il y a eu aussi la semaine dernière un arrêté qui autorise les établissements d'enseignement supérieur privés à délivrer des masters et des licences. Donc ça, c'est vraiment l'aboutissement de la réforme de Bologne avec le système LMD. Ben là, on voit que maintenant, les universités publiques n'ont plus le monopole de délivrer ces diplômes. Et ça, c'est aussi un énorme problème en termes d'égalité d'accès à l'enseignement supérieur. En fait, c'est à la fois la paupérisation et aussi la privatisation de quelque chose qui, pour nous, devrait rester un service public détaché des intérêts privés. Ça, c'est vrai au niveau de l'enseignement, c'est vrai au niveau de la recherche aussi, puisqu'on a de plus en plus des dispositifs qui permettent le recours à un financement privé de la recherche. Et ça, c'est une tendance qui est vraiment croissante ces dernières années. On a de plus en plus de contrats de thèse qui sont avec des employeurs privés, donc qui flèchent les contrats les sujets de recherche. Nous, ça s'appelle donc des contrats thèse, c'est les chiffres. Et entre 2000 et 2017, par exemple, on est passé de 750 à 1200 contrats chiffres. Et puis par ailleurs, on a des crédits, un crédit impôt recherche, donc c'est des exonérations en fait de taxes des entreprises privées lorsqu'elles proposent des contrats de recherche, de recherche et développement finalement. Et ça, en fait, l'État fait des exonérations qui coûtent 6 milliards d'euros à des entreprises pour qu'elles soi-disant donc fassent de la recherche, mais c'est quand même souvent des recherches au service des intérêts privés et du capital, etc. Et 6 milliards d'euros, c'est vraiment énorme si on compare au budget du CNRS, donc le Centre National de la Recherche Scientifique en France. Son budget, c'est 4,6 milliards d'euros, donc c'est beaucoup moins. Donc on a vraiment cette privatisation très forte, donc c'est vrai que l'université publique, à côté de ça, s'assèche complètement. Il y a un assèchement des financements, une réduction du nombre de postes pérennes, enfin des postes de fonctionnaires titulaires qui sont stables, du coup, pour faire face à l'augmentation du nombre d'étudiants, on a une augmentation de 20% du nombre d'étudiants en 10 ans, alors que le budget de la recherche, il a augmenté de 10% seulement sur les 10 dernières années.
Nous parlons de cette paupérisation des métiers de la recherche, de ces mobilisations. Comment est-ce que tu expliques le fait que, on ait des personnes autour de nous qui n'ont pas conscience que la formation, que les chercheuses, que la recherche, que l'enseignement est une situation extrêmement centrale et extrêmement importante au devant d'un monde complexe, que l'on serait avisé de décrypter. Et pour ce faire, il faut de la recherche, il faut des chercheuses et des chercheurs.
Je pense que nous, on avait fait un petit document à destination du grand public parce qu'il y a souvent, je pense, déjà cette idée que dans les universités, on a des profs privilégiés qui sont très bien payés, qui donnent peu d'heures de cours et qui font pas grand-chose. Et en fait, on voulait démystifier cette image qu'on a de l'université, dire que pour que... Alors, c'est la question de la recherche, effectivement. Il y a la question de la recherche et il y a aussi la question de l'enseignement, puisque nous, en fait, on fait de la recherche, mais qui pour nous, effectivement, est émancipatrice, c'est importante pour c'est important qu'elle soit autonome, indépendante des pouvoirs, indépendante des intérêts privés. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on transmet ces savoirs-là à nos étudiants et étudiantes. Et donc, pour nous, l'activité d'enseignement, elle est vraiment cruciale. Et en fait, que pour nos savoirs soient transmis, que ce savoir émancipateur soit transmis au plus grand nombre, il faut que les universités puissent tourner. Et pour que ces universités puissent tourner, on a besoin de tout un tas de personnes qui sont, alors déjà, les personnels administratifs et techniques, qui sont souvent très précaires. On a 40% de contractuels chez ces personnels-là. Et sans ces personnels qui sont souvent mal payés, maltraités, avec beaucoup de burn-out, sans ces personnes-là, ça marcherait pas. Tout ça, on pouvait pas transmettre nos savoirs. Il y a aussi énormément de gens qui sont, comme moi, qui n'ont pas de contrat, qui n'ont des contrats courts, assure en fait les premiers cycles universitaires, donc les années de les licences, en fait les cours de licence sont assurés à 70% par des personnels contractuels. Et pour moi la licence, c'est vraiment un cadre où on peut diffuser les savoirs et que ça reste pas dans une tour d'ivoire, on va dire, des chercheurs. Donc finalement c'est vraiment un problème. Enfin, je pense qu'on assure des missions qui sont très importantes pour le bien commun, pour la société, puisqu'on on transmet à beaucoup de gens ce savoir-là. On vit des conditions de travail, de rémunération qui sont vraiment scandaleuse. On a effectivement une souffrance au travail qui est très forte. Gérer l'incertitude que c'est d'avoir, ça va pas savoir si son contrat va être renouvelé ou non, si on a la chance d'être sur un contrat CDD. Si on est contractuel, si on est vacataire, on a une situation encore plus incertaine. Avec souvent, on se rend compte en cours d'année que, en fait, on respecte pas toutes les conditions pour être rémunéré, donc on est parfois pas du tout rémunéré alors qu'on a donné les cours. On nous demande de faire des tâches gratuitement, de surveiller et de corriger les partiels gratuitement parfois sur des cours qu'on n'a pas donné. Donc en fait, c'est aussi du travail gratuit, c'est du travail au noir, avec des bourses qui n'ouvrent pas de droits sociaux, etc. Donc en fait, des tâches qui en fait sont essentielles parce qu'elles permettent de rendre la recherche accessible à plein d'étudiants et d'étudiantes. Ces tâches-là, elles peuvent pas être réalisées dans des conditions dignes, en fait. Et c'est un problème quand on voit que nos étudiants et étudiantes vivent, elles et eux aussi, cette énorme pauvreté, toutes les difficultés pour se loger, pour se nourrir parfois, donc on est quand même les conditions d'accès à ces savoirs qui devraient être vraiment gratuits et diffusés le plus largement, en fait, est remis en question par cette politique de baisse des financements publics et d'inégalité de distribution de ces financements aussi, avec beaucoup plus de sous donnés aux établissements et aux étudiants qui sont les plus favorisés finalement.
Alors selon toi, y a-t-il là un déni pur et simple de l'importance de la recherche et de la transmission des savoirs, ou est-ce là une stratégie pour à long terme la mener vers une privatisation tous azimuts? Ou est-ce qu'il y a un peu des deux? Enfin voilà, comment est-ce que toi tu vois ça?
Pour moi, je pense que c'est vraiment l'idée que, je pense que ce qui est au fondement de ces réformes-là, c'est une conception de la recherche qui est diamétralement opposée à la nôtre, qui est que la recherche, ça devrait être au service de la croissance économique, au service des entreprises, pour que ces entreprises puissent accroître leurs profits. Et donc c'est toute une philosophie de la recherche qui est à l'opposé de celle qu'on défend. Et effectivement, si on regarde dans chaque réforme, il y a cette logique-là, que ce soit en fait la logique de dire qu'il y aurait. On le voit bien en fait avec une citation du PDG du CNRS, donc du Centre National de la Recherche, qui s'appelle Antoine Petit, et qui parle de darwinisme, et qui dit que cette réforme de la recherche à venir, là, de projet de réforme, c'est une réforme qui est bonne parce qu'elle est darwinienne. Donc il assume ce terme-là, inégalitaire et darwinienne, et que on va donner aux meilleurs le plus d'argent. Et donc c'est aussi cette logique, c'est à la fois donner aux entreprises et aussi faire comme si y aurait des meilleurs qui produiraient de la recherche et les autres qui seraient moins bons et donc auxquels on va donner des tâches d'enseignement. Et c'est très individualiste en fait comme vision. Et nous on défend aussi l'idée que la recherche, elle se fait de façon collective et elle se fait aussi Elle se fait aussi, enfin, elle est aussi, d'autant plus riche qu'elle est produite par des personnes qui sont, qui rentrent pas dans les clous des critères de l'excellence, en fait. Et c'est vraiment particulièrement vrai en sciences sociales où, dès que des femmes peuvent, on se rend compte quand les femmes peuvent produire de la recherche, quand des personnes racisées produisent de la recherche, elles produisent des résultats qui sont extrêmement émancipateurs et qui permettent de prendre conscience de domination et d'inégalité qui restaient complètement sous silence, en fait, jusqu'ici.
Ouais. Encore deux petites questions et puis je te laisse tranquille, d'accord ?
Oui.
Alors, ouais, non, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est extrêmement important. Alors,
tu
l'as dit. Non, mais c'est très bien. Tu l'as dit. On est dans une forme de darwinisme social. Clairement, on siphonne le public pour finalement le mettre d'une certaine manière tellement en crise qu'il n'y ait plus que le privé qui puisse apparaître comme solution unique et valide. Le cortège féministe des facs et des labos en lutte, c'est aujourd'hui le 8 mars à 14h, je crois, hein, chez vous.
Oui, c'est ça, à 14h.
Ouais. Et nous, eh bien, nous allons continuer cette journée pour les droits des femmes, journée internationale des droits des femmes ici à Genève. Pour en terminer, comment vois-tu ces prochains temps? Comment est-ce que tu les appréhendes? Comment est-ce que, le deuxième volet de la question, c'est comment, selon toi, est-ce qu'on arriverait à sortir de l'impasse? Quel moyen de lutte vois-tu au-delà de la recherche qui s'arrête, au-delà de la grève? Est-ce que, selon toi, il va falloir, renouveler des stratégies, intensifier le mouvement, le durcir? Enfin, comment tu vois un petit peu les prochains temps?
Je pense que c'est sûr qu'il va falloir de la créativité, de l'inventivité, ça j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'on va trouver des nouvelles manières de se faire entendre, de se rendre visible, parce que c'est vrai que c'est compliqué, il y a beaucoup de répression hiérarchique sur nos lieux de travail, de répression judiciaire, de répression policière qu'on a vécu ces dernières semaines, donc ça devient compliqué parce que c'est vrai que là avec le 49-3 qui est passé sur la réforme des retraites, on voit bien qu'on est face à un pouvoir inflexible, enfin qui se donne l'image d'être inflexible, qui passe outre la protestation, la contestation. Donc il va falloir à la fois être unis face à ça, puis trouver des moyens de contourner ça. Mais c'est aussi le plaisir de la lutte, c'est de toujours renouveler en fait nos moyens de contestation. Et j'ai quand même confiance dans le fait qu'on y arrive, quoi.
Très bien, très bien.
Et puis de nouveaux liens, etc. Donc c'est quand même absolument.
Voilà. Alors, en tout cas, comme on l'a dit tout à l'heure, on suit également cette situation-là. Enfin, les chercheuses et les chercheurs connaissent cette situation-là de grande précarité, avec des burn-out, avec des moments vraiment d'égarement, avec des moments sans aucun salaire. Donc, bien entendu, qu'on souhaite qu'il y a des convergences qui se forment. Nous, on va le rappeler, le site
international, d'ailleurs. Au niveau international, d'ailleurs, parce qu'il y a des gros mouvements dans les universités britanniques et états-uniennes en ce moment. Et donc, comme vous êtes en piste, c'est aussi un enjeu du renouvellement de la mobilisation. C'est aussi tisser des liens avec au niveau international aussi, quoi.
D'ailleurs, c'est déjà le cas.
Oui.
Oui.
Très bien.
On va continuer de vous épauler comme on peut, bien entendu. Et donc, on reparlera probablement de tout cela. On va juste pour terminer rappeler le site internet. Donc, c'est www.universitéouverte.org. Et puis, un deuxième site. Voudrais-tu nous redire l'adresse du site dont tu parlais tout à l'heure?
C'est précaire de l'ESR. Donc, précaire au pluriel de l'ESR tout attaché. .wordpress.com.
Très bien. Eh bien, écoute, si ça te va, on s'arrête là pour cette fois-ci.
Oui.
En te souhaitant une bonne marche cet après-midi et du courage pour la suite des opérations.
Merci beaucoup et bonne continuation à vous également. Merci pour tout le travail que vous faites.